Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat avec ce matin François-Mickey Marty, président de Via Voice, François Cholet, président de Montségur Finance, et Benaouda Abdelhaim, notre éditorialiste international. On a beaucoup de sujets pour tous les trois. On va commencer par la diversion d'Emmanuel Macron en plein débat sur les retraites. Il s'attaque de nouveau aux entreprises qui font des super profits et surtout aux entreprises qui rachètent leurs actions. Le mieux, c'est d'écouter le président.
Mais il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, Là, je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêtes à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter.
Alors, la démonstration économique de Emmanuel Macron, François Cholet, vous convainc-elle ?
Écoutez, les rachats d'actions, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. On est dans une année de distribution en 2023, des résultats donc de 2022, en termes de dividendes, qui va être extraordinaire. On va battre tous les records de distribution de dividendes, au point que les entreprises ont finalement, pour des raisons plutôt, on va dire, d'image de marque, préféré limiter les dividendes et opter pour ces politiques de rachat d'actions pour ne pas heurter l'opinion publique face à des super profits. Et c'est bien ce qui est rappelé là, c'est-à-dire que les rachats d'actions, c'est quand même une manière assez discrète de faire des super dividendes pour les actionnaires qui se retrouvent avec des bénéfices relués par le fait qu'il y ait moins de titres autour de la société, parce que les titres sont annulés. C'est une façon un peu sournoise de faire les choses et de rendre l'argent à l'actionnaire sans vraiment le dire. C'est aussi une façon de manipuler le cours de bourse de certains titres, puisque ça permet de soutenir au fil de l'année et de diminuer la volatilité, donc de communiquer de manière un peu plus vertueuse sur le comportement boursier de son titre. Est-ce que ça doit être, je dirais, quelque chose de répréhensible ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est répréhensible ? Non, il s'agit de rendre l'argent à l'actionnaire. L'argent qui est dans le bilan d'une entreprise appartient à l'actionnaire. Qu'on lui ressorte sous une forme de dividende ou de rachat d'actions, c'est son argent, quelque part. C'est un constat un peu d'échec de la part du dirigeant d'entreprise qui n'arrive pas à trouver de projet d'investissement dont la rentabilité soit au même niveau que la rentabilité de son activité aujourd'hui.
C'est ce que dit Apple tout le temps. Oui. Apple dit, je suis tellement bon, je fais des tellement super résultats, mes produits sont tellement excellents que j'ai pas besoin de tout cet argent, je le rends aux actionnaires. Alors,
et c'est pas faux. Et en même temps, Apple a utilisé ça aussi à des vues fiscales, parce qu'ils avaient de la fiscalité si vous les rapatriez, notamment de l'argent qu'ils détenaient en trésorerie en Europe. Et ils ont préféré emprunter sur les marchés de la dette à des taux très bas pour pouvoir faire ces rachats d'actions. Donc il y a aussi un côté d'optimisation fiscale. Et comme on a vu d'ailleurs, les rachats d'actions ont été un outil d'optimisation fiscale en France lorsqu'il y avait des taxes sur les dividendes qui étaient proportionnelles et non pas ce qu'on appelait la flat tax aujourd'hui ou le prélèvement forfaitaire. Et donc les entrepreneurs préféraient faire des rachats de titres plutôt que de faire ces dividendes trop taxés. Donc c'est des biais qui sont plutôt de caractère fiscal.
François-Mickey Marty, on a parlé d'opinion publique, de dividendes. Le mot dividende, c'est un gros mot, alors que rachat d'actions, finalement, bon, personne ne sait ce que c'est. Donc, ça passe.
C'est très juste. J'ai peur que si on insiste néanmoins sur rachat d'actions tel que vous venez de parler, ça pose aussi un problème tel que dividende. Non, c'est vrai qu'il y a eu crispation, mais c'est plus que ça, au fond. Une préoccupation et une attention croissante accordée à cette question du partage de la valeur, qui est au cœur du capitalisme. Enfin, depuis 2 ans, on a une accélération sur ces questions-là, parce que d'une part, on a eu des dividendes importants qui ont été distribués parce qu'on a des Français qui sont confrontés à l'inflation ou à la question du pouvoir d'achat. Et donc, les deux entrent en résonance. Voilà. Ce qui est quand même frappant, alors, parce qu'il y a toute une série de sujets en réalité derrière ça. Il y a perception du capitalisme, les dividendes tels que vous les évoquez, les super profits, l'illégitimité ou pas légitimité de l'attribution des dividendes. Ce qui est intéressant dans l'intervention, je crois, d'Emmanuel Macron, c'est cette référence au cynisme. C'est-à-dire, au fond, il y a une dimension éthique. C'est pas uniquement
morale,
de redistribution. Et donc, ce qu'il pointe là, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très qui suscite, de manière générale, à part la position actuelle d'Emmanuel Macron, une condamnation très forte, qui est le cynisme de l'actionnaire tel qu'il peut se comporter. C'est l'articulation entre prédateur et bienfaiteur. Et là, c'est un point qui est très particulier dans la galaxie de la dénonciation des super profits, des dividendes, etc., etc. C'est un point qui est très particulier. Ça a du sens en termes d'opinion. Voilà. Ouais. Bon, probablement, l'impact est beaucoup moins important que ce qu'Emmanuel Macron aurait pu supposer qu'il soit ou espérer qu'il soit compte tenu du contexte général connaissons par ailleurs. Mais enfin, voilà, ça a du sens en termes d'opinion.
Benaouda, on avait parlé ensemble aux États-Unis. Il y a eu ce débat sur les rachats d'actions et Joe Biden a décidé de mettre en place une taxe. Là aussi, il avait mis en avant le fait que les compagnies n'investissent pas. C'était vraiment le fond du sujet.
Oui, c'est un argument récurrent vieux comme le capitalisme boursier, et on continuera comme auparavant, comme ça a été très bien expliqué. La semaine dernière, BBVA, l'une des banques systémiques de la zone euro, banque espagnole, donc l'une des plus importantes aux côtés de BNP Paribas ou Deutsche Bank, a annoncé avoir lancé un programme de quasiment un demi-milliard d'euros de rachat d'actions, en soulignant que c'était avec l'aval de la Banque Centrale Européenne. Pour ainsi dire, mettre la responsabilité sur l'entreprise, en l'occurrence BBVA, en Espagne, plutôt que sur le régulateur qui donne le feu vert, c'est aussi une manière de rappeler que ceux qui dénoncent le cynisme sont ceux qui décident de la législation et qui décident de la régulation. Donc, pour ainsi dire, renvoyant à des politiques comme le président de la République française, à sa capacité ou non de peser dans la régulation de ces rachats d'actions.
Alors Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, a un avis sur les rachats d'actions et on va l'écouter.
C'est vrai que c'est aberrant. Les profits colossaux qui s'accumulent parfois ici ou là devraient être réinvestis. Je ne dis pas nécessairement distribué, mais réinvesti pour que l'économie soit encore plus dynamique, bien entendu. Donc, au total, problème mondial, malheureux problème mondial, parce que je crois effectivement que ce n'est pas du tout optimal.
Néanmoins, la solution proposée par le président de la République est bizarre. Il dit qu'il faut que ces entreprises qui font des rachats d'actions donnent un super intéressement ou une super participation à leurs salariés. Mais ce sont déjà les salariés qui bénéficient de conditions extrêmement avantageuses dans les grosses boîtes qui le font, qui ont déjà de l'intéressement, de la participation. Ça ne répond pas au...
Il dit pas on va vous forcer à investir.
Bah oui, ça répond pas au problème des Français.
Non, pas du tout. Je pense que ça ne répond pas fondamentalement au problème des Français et ça ne répond pas à la question de l'investissement que vous avez
dit très
justement.
Oui, exactement.
Non, ça répond à quelque chose. Je pense qui est plus profond et qui est très sous-jacent, qui est l'idée, qui est la légitimité du dividende, qui est au fond de plus en plus mise en question, compte tenu du fait qu'elle n'est pas articulée au travail. D'ailleurs, au fond, qu'est-ce qui progresse depuis 2-3 ans de la part des salariés, c'est l'idée selon laquelle si on retire des bénéfices au sens très large du terme d'une entreprise, ça doit procéder d'une forme d'intervention, qui peut être le travail bien entendu en priorité. Et donc il est légitime de reverser de plus en plus, c'est pas uniquement une question de capital-travail, c'est aussi la légitimité du dividende. Voilà. Et donc il y a deux aspects, il y a la légitimité du dividende, il y a bien entendu la question du cynisme, et puis ce que dit Emmanuel Macron, c'est aussi l'utilisation de l'argent public, des entreprises qui ont été soutenues par fonds publics.
Oui, c'est ce qu'il dit. Voilà. Oui.
Donc on est sur quelque chose qui est très précis en l'occurrence. Bon, je pense que l'imaginaire est tel autour de ça que les gens peuvent se dire, finalement c'est bien, les salariés peuvent avoir un peu plus d'argent, parce qu'il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent, mais son argumentation et je pense son point sont quand même assez précis.
François Choulet, je ne vais pas vous demander de légitimer le dividende sur cette antenne, c'est pas ma question, mais quand même je voudrais juste vous soumettre la théorie de Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, il dit quand on rend l'argent aux actionnaires, les actionnaires, eux, ils sauront où investir. Finalement, si la boîte ne sait pas où aller, peut-être que eux, ils ont des pistes.
Le président d'une entreprise est là pour gérer une partie de l'argent d'actionnaire, et s'il en a trop, il doit le restituer parce que c'est à l'actionnaire initial de décider de la façon dont il va la louer entre différents projets, différentes industries, différents investissements. Il y a quelque chose qui me heurte dans ce que vous avez dit. L'argent n'est pas gratuit. C'est fini. Et donc, vous empruntez aujourd'hui, vous avez un taux d'intérêt. Et malheureusement ou heureusement, c'est comme ça, si vous avez besoin de capital pour lancer une entreprise, il va falloir rémunérer ce capital aussi. Donc c'est fini. L'argent à zéro qu'on fournit gratuitement, il va falloir avoir en tête que ce soit pour la dette, il faudra payer les taux d'intérêt. Alors ils sont encore, d'un point de vue réel, encore un peu négatifs, mais ils sont cette fois-ci existants. Et en revanche, pour le capital, c'est fini de la même façon. C'est-à-dire, les actionnaires vont réclamer d'avoir une rémunération des capitaux utilisés par les entreprises positive et non pas. Et elle sera elle aussi revue à la hausse. Donc, on ne peut plus rester dans cet univers qui consiste à dire le dividende n'est pas légitime. Le dividende, il est tout aussi légitime qu'un taux d'intérêt sur une dette.
Ce qui est intéressant, Benouda, c'est que ce débat n'est pas spécifiquement français. On aurait pu penser que c'est toujours crypto-marxiste et que c'est toujours pareil. En fait, pas du tout. Aux États-Unis, il y a ce débat sur le partage de la valeur partout, parce que les inégalités, sans doute, se sont accrues.
Parfaitement. Et puis, c'est fondamentalement une question de cohérence politique. Vous avez peut-être vu que c'était hier ou avant-hier. Selon les dernières données de Bloomberg, la place de Paris, en termes de valorisation boursière, est à 250 milliards au-dessus de celle de Londres. Ouais. Donc l'écart maintenant est vraiment creusé. Ouais. C'est fondamental. Et on va entendre forcément, à un moment ou à un autre, les politiques français se réjouir d'être aussi devant la City. Mais au demeurant, là où la City a, assume totalement cette dichotomie et assume le dividende, assume les rachats d'actions, assume tout ce processus-là. Vous entendez le chef de l'État français à la fois critiquer le cynisme, pour reprendre son terme, de des politiques de dividendes et de rachats d'actions, et se féliciter de ces 250 milliards d'être passé devant la Bourse de Londres. Donc, de ce point de vue-là, à un moment, il y a une question de cohérence politique.
C'est culturel. Il y avait l'argent qui corrompt de Mitterrand. Il y avait mon ennemi, c'est la finance, de François Hollande. Et aujourd'hui, il y a le cynisme des entreprises vu par Emmanuel Macron.
Je ne sais pas si on doit désespérer de tout ça. En tout cas, pendant ce temps-là, la Fed est dans le brouillard. C'est Jérôme Powell qui le dit lui-même. Dans ces conditions, les taux américains n'ont été relevés que de 0,25. On écoute Jérôme Powell.
Cette nouvelle hausse de taux peut avoir un effet modeste sur l'économie. Il est également possible que cela contribue à considérablement réduire les conditions de crédit au fil du temps. Nous ne savons tout simplement pas.
François Chollet, comment vous avez interprété le Jérôme Powell d'hier soir ?
Alors, dans un premier temps, il a fait ce qui était attendu. 25 points de base, c'était à peu près le consensus. Et c'était, entre guillemets, ce qui avait été annoncé. Et ça a été vu plutôt d'une manière positive par les marchés. Parce que... Vous m'avez interrompu pour le coup. parce que dans un premier temps, c'était assez proche. Là où les marchés ont réagi négativement, c'est quand il a dit que lui ne prévoyait pas de baisse de taux en 2023. Et que si baisse des taux il y avait, ça ne pourrait exister qu'à partir de 2024. Et c'est donc là que le discours s'est infléchi. Mais on a un Jérôme Powell qui a pris la même attitude finalement que Christine Lagarde à la BCE, à disant on est en train d'arriver... En fait, ils ont fini le travail, faut pas se leurrer. On arrive vers 5% de taux d'intérêt sur les taux directeurs. On a une inflation à peu près autour de 6 aux États-Unis. On peut considérer que ce qui se passe aujourd'hui sur le secteur bancaire amène à un durcissement des conditions de financement de l'économie. C'est quasiment un équivalent de hausse de taux supplémentaire qu'ils n'ont pas besoin de faire. La seule chose, c'est que dans le même temps, vous avez la Banque centrale qui augmente la taille de ce bouillon en fournissant des liquidités aux banques. Donc c'est là où... Il y a un peu le frein et l'accélérateur en même temps. Mais dans les faits, l'essentiel du travail est fait. Ça fait plus de 15 ans qu'on n'a pas vu des taux directeurs aussi élevés aux États-Unis. Et on est largement au-dessus des niveaux de croissance potentielle. Donc clairement là, on a les pieds sur le frein, sur les taux. Il faut que ça prenne un peu de temps pour que l'inflation retrouve des niveaux cibles.
Alors, est-ce que cette hausse des taux d'intérêt, elle fragilise le système bancaire et financier mondial ? On a des paroles très rassurantes de Philippe Brassac, président de la Fédération des banques françaises, de Villeroy de Gallo. Et on a eu la chance tout à l'heure d'avoir Jean-Claude Trichet, qui est plus libre dans sa parole. Écoutez ce qu'il pense de la situation financière mondiale.
On a augmenté les taux comme cela avait été dit et promis, mais on a changé ce qu'on appelle les indications ex ante, le forward guidance dans le jargon, parce que précisément, il y a besoin d'informations supplémentaires pour savoir ce qui sera fait. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, on a changé les indications a priori, et c'est ça qui signale qu'il y a un problème particulier de fragilité, disons, de la sphère financière.
Un problème particulier de fragilité de la sphère financière. Ça vous inquiète, Benahouda, François ?
Il y a quelque chose de frappant, c'est sorti de ces cercles euro-américains, la déconsidération mondiale qu'ont les Indiens, par exemple, les Chinois, et j'ai de nombreuses illustrations pour ce qui peut être dit par Jérôme Powell et par Janet Yellen, la secrétaire au Trésor. Nous avions parlé la semaine dernière des accusations d'incompétence crasse qu'avaient émis des régulateurs européens vis-à-vis de leurs homologues américains. C'est repris par les Indiens qui rappellent que sur le dernier siècle, 1929, 1987, 2000, 2008 et 2023, c'est toujours et systématiquement le même responsable, c'est-à-dire le duo secrétariat au Trésor, réserve fédérale américaine, d'une part, et d'autre part, et je finirai là, hier, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui n'est pas indien, qui n'est pas chinois, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a été auditionné par la commission du Trésor au Parlement britannique. Et il explique quoi ? Qu'il a averti, ses services ont averti il y a 24 mois, pas un mois, 24 mois, ses homologues américains du très gros problème que posait la SVB en expliquant qu'il y avait un risque de concertation, de chevauchement des clients entre les livres de prêt et les livres de dépôt de SVB au cours des 18 à 24 mois avant que le problème n'éclate et qu'il n'a jamais été écouté. Donc il y a de plus en plus de griefs qui remontent à la surface, et cette impression de flottement, il n'y a qu'à voir comment Janet Yellen pratiquement change de discours de jour en jour.
Sur les dépôts, elle change.
Sur les dépôts, et finalement alimentant aux yeux du reste du monde cette impression d'aléa moral gigantesque et de pilotage à vue qu'il y a aux États-Unis.
François ? Oui, non, pardon, non, non. En effet, je trouve que les mots de flottement et d'aléa sont très justes, si je puis me permettre. on est même dans un cumul de fébrilité, d'une certaine manière, de la part de certains acteurs. D'abord, parce que fébrilité, parce que, avec des interrogations sur le rôle des banques centrales, de l'argent facile, cet argent facile n'a pas été une forme d'incendie qui a fragilisé la situation actuelle. Deuxièmement, en effet, les interrogations sur une partie du système bancaire actuel. Et puis, les hésitations telles qu'elles sont communiquées. C'est-à-dire, au fond, on passe d'une situation où la Fed dit on va augmenter de 0,5 points le taux directeur, puis ensuite on est à 0,25. Voilà. Il y a une étude très intéressante de la Banque de France il y a quelques années qui dit quand on est quand on amplifie, au fond, les incertitudes de la part des banques centrales, ça amplifie aussi le discrédit de la part, au fond, des décideurs économiques. C'est très intéressant à observer dans la durée. Donc, on a un cumul de trois fébrilités qui peut évoluer de manière incertaine.
Merci à tous les trois pour ces éclaircissements passionnants sur la situation économique et financière mondiale.